Bonjour, Marie des Hauts-de-Seine. Donc, j'ai écouté votre émission sur le pétrole et en fait, ça m'a rappelé un sketch qui était grossièrement « Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous apprendrai à vous en passer ». Donc, c'est peut-être dans ce sens-là ce qu'il faudrait réfléchir. Quant aux chasseurs, ils sont tellement grossiers ou tellement égoïstes que je me dis « c'est pas possible ». C'est un sketch. Enfin, bonne journée, merci.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'habite à Münster en Alsace. Je me demande comment ça se fait qu'on peut voler jusqu'à Rome pour 35 euros. Je me croyais écologiste et j'ai voulu prendre le train, mais c'est 220 euros. Je parle d'un aller simple. Mais pourtant, c'est cher de faire rouler un avion. Alors, comment c'est possible tout ça? Je croyais que c'était la fin des avions pas chers. Merci.
Oui, c'est Pierre. Tant que vous serez à la Terre, au carré, de la sphère, hein, ça change tout. Hein. Voilà, c'est tout simple. Et puis, il ne faut pas quand même déconner, non? Allez, salut.
Jean-Paul, Cajard dans le Lot, une zone de chasseurs. Je suis ahuri quant à la comparaison que vient d'établir le chasseur interviewé sur votre antenne, qui comparait la chasse à un jeu de football. C'est-à-dire que pour lui, un animal n'est rien d'autre qu'un ballon avec lequel on peut jouer et taper dedans. Voilà, très ahuri de cette remarque. Au revoir.
Bonjour, j'appelle de Saint-Palais dans le 64, c'est Hélène. C'était en réaction au propos du chasseur qu'on a entendu dans la chronique de Camille Cronier. On voulait dire en tant que France rurale que non, c'est bon, merci. On ne se sentait pas du tout attaqué et on se porterait même certainement un petit peu mieux sans les chasseurs qui se baladent en 4x4, qui laissent toujours traîner leurs douilles par terre et qui respectent pas toujours les autres usagers de la nature que la France rurale en comporte beaucoup. Merci.
Voilà, je m'appelle José Chéron. J'habite dans le Luberon, un petit village d'Anchouy. Et nous avions l'année dernière à peu près 20-25 tourterelles qui venaient manger tous les jours. Et maintenant, j'en ai plus que 4 ou 5. Donc, je pense que les chasseurs ont été quand même un petit peu sévères là-dessus. Merci. J'ai envoyé un message, moi, pour les tourterelles.
Bonjour à tous. Elisa, pour une manifestation contre la corrida dans le Gers à Cesson. Ce dimanche 5 septembre à 14h30, place de Cesson. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et le retour du club de la Terre au carré le vendredi. Nous ferons une première escale à Marseille où commence, vous l'avez entendu, le congrès mondial de la nature et avant le direct de la Terre au carré sur place lundi. La biodiversité qui sera également à l'honneur sur Ushuaïa TV pendant tout le mois de septembre. On s'intéressera aux femmes agricultrices à l'occasion du congrès mondial de la bio qui se tient à Rennes. Et puis on parlera écologie et réchauffement climatique avec le chanteur star des enfants. Et pour parler de tous ces sujets, je salue Christophe Sommet, le patron d'Ushuaïa TV avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour Mathieu Fidard.
Depuis Marseille, Maude Lelièvre, la présidente du comité français de l'UICN. Bonjour.
Bonjour Mathieu Vita.
En duplex de la Bretagne, Valérie Lazenec. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et depuis les studios de France Bleu Besançon, c'est un petit tour de France aujourd'hui, le chanteur Aldebert. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
On se retrouvera tous ensemble dans un instant, bien sûr, avec les messages, les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, le mot-clé l'attaque, mais également l'appli France Inter pour nous laisser vos notes vocales dès maintenant. Et bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
À 14h30, on passera bien sûr au vert avec vous.
Oui, et pour bien commencer le week-end, moi le vendredi, désormais, je vais vous donner que des bonnes nouvelles. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes.
Vous en avez trouvé pour nous.
Ouais, j'ai bien cherché.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparé aujourd'hui par Colin Gruel et Leonardo Kahn avec la technique Adèle Caglar.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Et bien sûr, on va commencer par un premier tour de table. Direction d'abord le parc Chanot à Marseille pour le congrès mondial de la nature. Maude Lelièvre, vous êtes la présidente du comité français de l'UICN. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est quoi, en deux mots, l'idée centrale de ce congrès? On aura le temps d'en parler tout à l'heure avec vous.
L'idée centrale, c'est prendre les bonnes décisions maintenant parce qu'il y a urgence, avoir une vraie prise de conscience et faire ce que fait bien l'UICN depuis 73 ans, donner les axes et déployer des programmes sur le terrain.
Et tout ça, évidemment, pour la biodiversité et les écosystèmes. Christophe Sommet, votre chaîne Ushuaïa TV se met aussi au diapason du congrès de l'UICN avec le mois de la biodiversité. Ça commence d'ailleurs aujourd'hui avec une série de documentaires que vous déclinez sur le sujet.
Tout à fait. Ce seront 6 soirées thématiques tout au long du mois de septembre. Et dès ce soir, effectivement, on commence avec Wildlife Expédition, direction la Guyane.
Et la Provence. Valérie Lazenec, vous êtes avec nous, agricultrice bio. Vous êtes à Brest. Vous faites partie des commissions Femmes et Bio de la Fédération Nationale de l'Agriculture Bio. Fédération qui sera présente au 20e congrès mondial de l'agriculture biologique qui aura lieu à Rennes, c'est la semaine prochaine, du 6 au 10 septembre. Est-ce que les femmes agricultrices sont nombreuses dans votre profession, Valérie Lazenec?
Eh bien, de plus en plus, on est de plus en plus nombreuses, mais pas encore suffisamment, notamment dans les prises de responsabilité, et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, mais voilà, pour donner envie aussi aux femmes, aux paysannes bio de s'engager.
Et pour essayer de dépasser tous les obstacles, il y en a beaucoup, hein. On en parlera avec vous évidemment tout à l'heure. Et puis enfin Aldebert, vous sortez un nouvel album Enfantillage 4 avec un titre qui a retenu notre attention. Il s'agit d'Assis soit-il avec Peter Garrett, le chanteur australien du groupe Midnight Oil, un duo qui est un plaidoyer pour la planète. Donc le réchauffement climatique, c'est aussi un sujet pour les enfants?
Bien sûr, je pense qu'il faut les inviter à réagir et à se connecter ou à se reconnecter avec la nature. Et puis l'idée, c'était de réveiller un petit peu les consciences, enfin en tout cas de tenter.
Ouais. On écoutera évidemment le titre dans son intégralité tout à l'heure, extrait donc de ce nouvel album Enfantillage. Et puis bien sûr, on attend les messages, les questions des auditrices, des auditeurs et des enfants aussi.
Surtout les enfants, vous pouvez nous appeler, nous laisser des petites notes vocales en prenant le smartphone de... des parents, hein, parce que j'espère que les enfants un peu jeunes n'ont pas déjà de smartphone, je fais la vieille. Mais voilà.
Pour ceux qui ne sont pas à l'école, effectivement, cet après-midi, quand c'est chez les cours, pour envoyer des messages, par exemple, à Aldebert, vous allez sur l'application
en fait. France. Mais quand même,
on va y arriver. Je suis sûr avoir un enfant, moi, cet après-midi.
I'm not afraid to die.
et les Rolling Stones, évidemment, à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Hello and welcome to Marseille.
Bonjour, bienvenue à Marseille.
Buenos días, bienvenido a Marseille.
C'est ce qu'on vous dira, Camille, quand vous arriverez tout à l'heure sur le quai de la gare de Marseille.
J'espère qu'il y aura un comité d'accueil. Les Marseillais, voilà. Si vous m'écoutez, j'arrive à 20h10.
Voilà, pour le congrès mondial de l'UICN. Le reste de l'équipe arrive demain. Et on sera lundi, évidemment, en direct pour La Terre au Carré. Et toute la semaine avec Camille Passauvert. Maud Lelièvre, vous êtes la présidente donc, du comité français de l'UICN. Donc aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, finalement? C'est le démarrage du congrès ou l'arrivée d'Emmanuel Macron?
Ni l'un ni l'autre, ce qui nous préoccupe le plus au niveau du comité français, ce sont les conclusions, les motions qu'on va voter. C'est avant tout une assemblée des membres et on a vraiment besoin que les messages qu'on répète puissent se traduire de façon concrète. Donc on a et ces motions, ces grandes orientations et la déclaration finale. Pour nous, c'est ça qui est important.
Ouais, et le public...
On a l'intérêt d'accueillir tout le monde, évidemment. Ouais,
alors justement, oui, le public là-dedans, qu'est-ce qu'il va pouvoir venir faire à ce congrès qui a lieu jusqu'au 11 septembre au parc Chanot de Marseille?
Alors, pour la première fois depuis l'existence des congrès de l'UICN, il est vraiment ouvert au grand public. On le doit à l'État français qui a choisi de l'accueillir, ainsi qu'à l'Office français pour la biodiversité. Et on aura des espaces totalement ouverts où seront présentés à la fois les solutions que peuvent porter les organismes publics, privés, les associations, mais aussi beaucoup de pédagogie. Vous parliez des enfants. Nous, ça fait partie de nos priorités. Au niveau du comité français, on a vraiment envie que la prochaine génération ait envie de préserver la nature, mais surtout connaisse la biodiversité de proximité pour mieux la protéger. Et donc, c'est aussi le sens de cet accueil du grand public et de nos amis de Marseille et de la région de Marseille.
Mais comment on s'y prend sur un temps aussi court, justement, pour essayer de faire bouger les lignes et faire que, justement, la biodiversité soit enseignée, en tout cas bien comprise par les plus jeunes?
On fait beaucoup de pédagogie et du ludique. Nous avons, par exemple, publié... un jeu, défi nature, les parents doivent les connaître, qui permettent aux enfants de jouer avec des cartes qui sont fondées sur la liste rouge de l'UICN, c'est-à-dire les espèces plus ou moins menacées. Et donc, avec BioViva, nous publions ce jeu en avant-première sur les mammifères et les espèces françaises, parce qu'on s'est aperçu souvent que les enfants, à travers les livres, à travers l'éducation, les films, connaissent parfois mieux les grands mammifères d'Afrique ou d'Asie. Donc pour bien protéger son environnement, il faut d'abord arriver à le reconnaître et le connaître. Donc c'est un des axes que nous déployons, nous, mais effectivement, il y a beaucoup d'associations comme la Ligue de protection des oiseaux, WWF, France Nature Environnement, qui sont présents, qui sont des membres de l'UICN et qui proposent des actions avec les écoles, les centres de loisirs, beaucoup d'actions ludiques. Et parce qu'en jouant, on apprend aussi mieux.
Justement, j'allais vous demander, au-delà d'éventuelles conférences, informations qu'on va aller trouver sur place, est-ce que, bon, ça peut paraître un peu rébarbatif aussi, comme ça, un gros congrès, est-ce qu'il va y avoir justement des activités sur place, des ateliers un peu ludiques, pour reprendre le mot que vous venez d'employer?
Oui, dans les espaces de génération nature, hein, c'est vraiment l'objectif d'accueillir largement le grand public. D'ailleurs, beaucoup des organisations membres de l'UICN participent au congrès, participent à l'assemblée des membres, et puis dans le même temps, déployer des activités spécifiques dans ces espaces génération nature qui accueillent le grand public. Si on donne envie aux gens de s'engager, si on leur donne un petit aperçu des sciences participatives qui sont par exemple proposées par le Muséum d'histoire naturelle, eh bien peut-être que demain on aura des classes entières qui viendront visiter ces organismes, on aura des enfants qui auront envie avec leurs parents de compter les oiseaux pendant le week-end. Donc on sème des graines pour la suite.
Aldebert, justement, on parle d'éducation là pour les plus jeunes. Une chanson comme celle dont on va parler tout à l'heure, extrait de votre album, c'est une forme d'éducation aussi à ces questions de biodiversité?
Oui, alors j'ai pas du tout la prétention de donner une leçon, de faire la morale. C'est surtout ce que je veux éviter. L'idée c'est de plus essayer de peut-être de les éveiller, de proposer peut-être quelque chose, des idées en fait, c'est ça.
On va écouter une note vocale. C'est Nicolas qui nous a appelé sur l'appli France Inter. Il est à Marseille justement.
Bonjour l'équipe et les auditeurs de La Terre au Carré. Nicolas de Marseille. J'ai la chance d'avoir ce week-end dans ma belle ville et le président Macron et le congrès de l'UICN. On se demande, est-ce que ça va vraiment changer les choses et nous éviter le mur climatique dans lequel on fonce tout droit? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen face à ça? Marcher pour le climat, mais pour exiger quoi? Je pense qu'il nous faut exiger de tous les candidats de gauche à la présidentielle qu'ils se plient de gré ou de force à l'exercice de la primaire populaire pour que, en 2022, il n'y ait qu'un seul candidat qui soit capable de relever les défis climatiques qui nous font face. Voilà, j'espère qu'on va tous se mobiliser avec tous les écolo-activistes et qu'en 2022, la messe ne sera pas dite.
Alors Maud Lelièvre, est-ce que vous avez envie de répondre à cet auditeur de Marseille qui donne l'impression que l'écologie, finalement, c'est qu'une histoire de gauche, mais... Ça concerne tout le monde, non?
Il ne m'appartient pas de me prononcer. En tout cas, il y a une chose que j'ai entendue chez vos auditeurs dans les différents reportages, c'est qu'il faut réinterroger nos modes de production et nos modes de consommation. Lorsqu'on achète des produits qui aggravent la déforestation, lorsqu'on choisit de consommer de la fast fashion, lorsqu'on ne fait pas attention à l'utilisation des espaces naturels et qu'on favorise l'artificialisation, on est tous responsables de la perte de la biodiversité. Moi, j'aimerais réagir sur un point, sur ce qu'a dit votre auditeur, c'est que on ne peut pas opposer climat et biodiversité. Les deux crises sont liées, il faut traiter les deux crises ensemble. Nous avons besoin de solutions propres au climat, nous avons besoin de solutions propres à la biodiversité. Mais si on regarde les chiffres, si c'est par exemple 50% des émissions de CO2 qui sont émises par les activités humaines qui sont stockées par les milieux naturels. Donc les solutions, elles doivent être conjointes et la crise est conjointe.
Oui, sauf que Maud Lelièvre, il y a une auditrice qui nous le disait d'ailleurs cette semaine sur le répondeur de la Terre au Carré, la biodiversité passe encore au second plan finalement par rapport au changement climatique. Vous faites le même constat ou pas?
De moins en moins, en tout cas chez les spécialistes, c'est normal parce qu'on a commencé à suivre les questions du climat avant celles de la biodiversité. Le GIEC est beaucoup plus ancien que l'IPBES, qui est l'organisme qui s'occupe de suivre la biodiversité. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est le rapport commun qui a été fait justement entre ces deux organismes scientifiques, qui a été publié en juin et qui a été fait par les 50 meilleurs experts au monde du climat et de la biodiversité, qui analysent les causes et qui trouvent des solutions communes et une double réponse. Moi, je crois qu'on va finir par rapprocher les COP. En tout cas, les COP se répondront les unes aux autres. On ne peut pas continuer parce que parfois, on prend des mauvaises solutions favorables à l'une, favorables à l'autre. Donc, on a besoin de travailler de façon convergente. Les conséquences sont souvent les mêmes.
Mais justement, Maud Lelièvre, vous parlez des COP, il y a le Congrès mondial. Est-ce que tous ces rendez-vous qui sont de plus en plus nombreux peut-être, ou de plus en plus rapprochés, mais au final, on a l'impression que les choses peut-être avancent, mais beaucoup trop doucement et que les choses ne s'améliorent pas. Est-ce que vous, qui êtes aussi, faut le préciser, candidate, je crois, pour prendre la présidence de l'UICN Monde, hein, c'est ça? Enfin, de ça va
alors,
se décider.
Alors, pour siéger à l'UICN, au bureau international, au conseil international.
Est-ce que justement, d'accord, mais est-ce que c'est une façon aussi pour vous d'essayer de faire avancer un peu plus les choses parce que c'est un peu trop immobile tout ça?
On pense qu'il est possible d'accélérer. Nous, au niveau français, on a une vision et la volonté de faire travailler tout le réseau francophone. C'est aussi le sens de ma candidature à ce conseil international. On est convaincu que ce qu'on sait parfois très bien faire dans un pays, il faut arriver à l'exporter. C'est parfois plus facile avec une proximité de langue. Je vous donne un exemple. La France est leader sur les sites listes vertes. On connaît souvent l'UICN pour ses listes rouges, mais les listes vertes, ce sont les aires protégées et bien gouvernées. Et nous en avons 22 en France sur les 59 sites labellisés au plan mondial. Et c'est cette expertise que nous voulons déployer. Protéger, avoir l'objectif de 30% d'espaces protégés, c'est un objectif primordial. La France est plutôt très active dans le domaine, mais nous avons aujourd'hui au plan mondial que 17% de l'espace terrestre et 8% des océans qui sont protégés. Il faut vraiment accélérer.
Alors Maud Lelièvre, évidemment, on aura largement le temps d'en parler lundi, puisque la Terre au Carré sera en direct de Marseille et puis toute la semaine avec Camille Passauvert. Mais il y a des enjeux très importants. La préservation des vieilles forêts d'Europe, la question de la Méditerranée. La nouvelle liste rouge d'ailleurs de l'UICN sera dévoilée demain à 14h sur les espèces menacées. Hein, c'est l'inventaire vraiment le plus complet de l'état de conservation des espèces à la fois végétales et animales sur Terre. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et le public donc est invité à partir de quand d'ailleurs à se joindre sur le parc Chanot?
Eh bien, dès demain, pour découvrir les espaces Génération Nature, nous serons également présents comme comité français de l'UICN.
Ouais. Quel est le site internet pour avoir tout le programme et choisir les conférences, rencontrer les chercheurs, aller au forum justement?
Je vous invite à rejoindre le site internet de l'UICN France, www.uicn.fr.
Merci beaucoup Maud Lelièvre. Christophe
Merci
Sommet,
à
bientôt. Vous qui êtes le directeur du pôle thématique du groupe TF1 en charge des chaînes Ushuaïa, donc TV, TV Braise et Histoire, vous serez également présent à Marseille pour le lancement de votre programmation spéciale sur Ushuaïa TV consacrée à la biodive. Vous serez également présent pour une table ronde, c'est ça, c'est lundi?
Exactement, lundi à 18h30 dans le cadre de notre partenariat avec le comité français sur la thématique des solutions de conservation région méditerranéenne, ouais. 18h30.
Le documentaire télé, ça peut avoir un rôle aussi éducatif sur ces questions-là essentielles de biodiversité?
Alors nous, à Ushua TV, on en est persuadés. La chaîne s'adresse à un public familial. L'idée, en premier lieu, c'est de, à travers des belles images, sensibiliser le public. C'est aussi donner les clés, les infos, les datas pour que chacun puisse se faire une idée des choses et envie de s'engager, se mobiliser pour faire avancer la cause, que ce soit la cause climatique, la cause biodiversité ou d'autres causes comme la condition animale.
Depuis que ces questions sont vraiment rentrées maintenant dans l'espace public et vraiment depuis 2018 avec la question du climat par exemple, est-ce que vous avez senti des changements aussi auprès des téléspectateurs sur leurs demandes aussi en matière de documentaire?
On a senti une demande plus forte, ne serait-ce que parce qu'on a eu une audience qui a progressé. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour la chaîne. Je dirais qu'on a accompagné depuis assez longtemps un mouvement de mise en avant de solutions, d'initiatives positives pour arrêter d'être tout le temps dans des constats anxiogènes, culpabilisants. Ça, c'est quelque chose qui était important pour nous et qui, on pense, correspond vraiment à ce dont les gens ont besoin et recherchent, notamment dans les documentaires qu'on peut diffuser ou les magazines.
Donc ça commence un mois autour de la biodiversité et c'est ce soir pour le premier documentaire, on en parlait tout à l'heure, avec une expédition en direction de la Guyane et ensuite de la Provence. Hein, c'est la même équipe qui est partie sur les différents lieux.
C'est un reporter naturaliste qui s'appelle Rémi Dupuis, qui est accompagné d'une équipe absolument incroyable de jeunes experts. Donc ils commencent par la Guyane, puis ils vont en Provence. L'idée, c'est d'aller voir les héros, les héroïnes qui protègent les écosystèmes au quotidien. Donc des images formidables, beaucoup d'informations, beaucoup de choses pédagogiques. On rejoint le côté pédagogique de notre programmation. Voilà, c'est la première des six soirées qu'on va consacrer lors de ce mois de septembre.
Eh bien, on en écoute un extrait. Ce sera ce soir à 20h45, donc en Guyane, avec des rencontres assez originales.
Regarde, l'île, là. Elle est juste derrière la végétation.
Moi, je vois rien. Et là, on me dit qu'il faut regarder les yeux qui brillent dans la nuit. Et si quelque chose brille, c'est sûrement un caïman.
Viens, 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 viens. Donc là, tu auras un des plus gros caïmans noirs qu'on va voir ici sur la rivière.
Viens ici.
Il appelait le caïman. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui appellent leur chat, leur chien. Mais lui, non, lui, c'était son petit caïman. Donc il lui avait donné un petit nom. Hein, voilà, Madeleine, petit Jal. Et il faisait comme ça, viens, viens. Et là, le caïman, il venait, quoi.
Viens ici. Viens, dépêche-toi, viens.
Voilà, ce sera la première expédition ce soir, 20h45 en Guyane. Et puis, des noms, Juliette Binoche, ça ce sera pour plus tard, mais en tout cas, Maurice Barthélémy, Lambert Wilson, Yann Arthus-Bertrand. Il vous faut des figures populaires pour parler d'écologie sur Ushuaïa TV?
Il faut à la fois des experts, des gens pas forcément connus du grand public pour apporter justement cette expertise, mais il nous faut effectivement des ambassadeurs, des incarnants, je dirais, pour être plus concernants auprès du public qui les connaît, pour avoir leur émerveillement, pour avoir leur engagement. C'est le cas particulièrement de Maurice Barthélémy, qui est parti en République démocratique du Congo suivre la primatologue Amandine Renaud. Il y a eu une bascule dans l'appréhension de ces sujets par Maurice Barthélémy. Et voilà, c'est des choses magiques comme ça, des révélations aussi qu'on est capable d'apporter dans les documentaires.
Et à la fois, vous êtes capable de consacrer 3 documentaires uniquement à la mangrove. C'est-à-dire que sur un écosystème aussi spécifique, qui appartient donc aux pays tropicaux, vous donnez 3 films à voir.
Tout à fait. Alors ça, c'est des choses assez incroyables, parce qu'on pense qu'un doc peut suffire. Ouais. J'ai d'autres exemples comme ça, où on fait des cycles de programmation sur une thématique. Par exemple, on aura plus tard une soirée lynx avec 3 documentaires sur le lynx. L'idée, c'est d'avoir à la fois des choses exceptionnelles et de rentrer, je dirais, laisser le temps au temps de creuser certains sujets.
Ouais. Comment justement vous choisissez les sujets? Comment ça se passe? Que vous dites ça va embêter les téléspectateurs, ça va les intéresser, enfin, parce qu'il faut quand même bien sûr, faut pas, vous disiez tout à l'heure, faut pas les culpabiliser, faut pas les angoisser, mais bon, il y a un moment, faut quand même les sensibiliser, et c'est pas juste en montrant des jolies images où en fait on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes.
Tout à fait. Alors c'est pas du tout ce que fait la chaîne. Elle a à la fois effectivement cet objectif de d'émerveiller, parce que c'est vraiment dans l'ADN de Ushuaïa Nature qui a donné le socle à la chaîne, voilà, il n'y a pas de hier devant les yeux. On a des docs beaucoup plus impactants, beaucoup plus engagés,
Donc comment vous choisissez les thèmes? Comment vous dites, ben on va faire 3 docus sur la mangrove, par exemple?
Alors, c'est à la fois la rencontre de l'offre et de la demande, si je puis m'exprimer comme ça. C'est en réaction par rapport à des projets que peuvent nous proposer des producteurs, des beaux documentaires qu'on peut trouver en acquisition sur le marché français et international. C'est aussi l'alchimie que nous, on a au sein de la chaîne et des équipes, d'avoir ce savoir-faire de créer des soirées thématiques, à la fois sur des événements, à la fois sur de la profondeur pour traiter des sujets. Il nous faut des choses qui concernent un public plus jeune, il nous faut des choses vers des personnalités, vers du public plus expert. C'est un peu tous ces ingrédients-là qu'il faut qu'on compose avec l'équipe.
Donc le mois de la biodiversité sur Ushuaïa TV, ça commence ce soir. Vous serez présent aussi donc à Marseille pour le congrès de l'UICN lundi à 18h30 à l'espace Forum. Et puis tout ça, c'est en partenariat avec France Inter. Merci beaucoup Christophe Sommet.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert et le vendredi, on s'est fait la promesse de ne vous donner que des bonnes nouvelles.
Bah oui, puis ça commence. Emmanuel Macron vient d'annoncer le sommet One Ocean à la fin de l'année. On est sauvés, c'est bon? Non, bon, bien sûr, non. Alors des bonnes nouvelles, par contre, des vraies, il y en a. Je vous dis pas non plus que ça déborde. Hein, il faut un petit peu chercher, mais ça existe et ça fait du bien. Bonnes nouvelles aujourd'hui, toutes liées à la biodiversité. Hein, forcément, petit clin d'œil au congrès donc de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui s'ouvre à Marseille tout à l'heure. Et voici la première. Voilà, les éléphants. Oui, les éléphants classés comme espèces en danger dans la savane africaine, mais dont la population commence à remonter au Kenya, d'après les autorités en tout cas, qui avancent dans un rapport cette semaine une augmentation de 21% de la population d'éléphants au Kenya depuis 2014, parce que la lutte contre le braconnage en particulier commence à porter ses fruits. Alors j'ai demandé au spécialiste Mathieu Bourgarel du CIRAD, basé au Zimbabwe, ce qu'il en pensait. Donc pour lui, il n'y a pas trop non plus de quoi s'emballer, il faut rester un petit peu prudent sur les chiffres en eux-mêmes, mais oui, il y a du progrès.
Ce qui est avant tout important, c'est la tendance de la population à augmenter, car c'est un phénomène qui est très lent, qui comprend le recrutement de la population, il s'agit des individus qui naissent et survivent, mais aussi de l'immigration, c'est-à-dire des animaux qui évitaient la zone à cause du braconnage et qui y reviennent maintenant qu'il y a moins d'activité humaine et que les risques de se faire tuer sont moins importants.
Et pendant ce temps, des nouvelles de mon histoire préférée de l'année. 15 éléphants d'Asie, cette fois, qui se sont paumés plus d'un an dans le sud-ouest de la Chine. Le leader du groupe, en fait, a totalement perdu son chemin, entraînant tout le monde avec lui. On les a vus traverser des villes, des villages, en détruisant à peu près tout sur leur passage, hein, puisque ce sont des éléphants. Et faire quelques frayeurs aux habitants, on les a vus faire aussi des petites siestes. Ouais. Le tout grâce aux 9 drones, aux 76 voitures et aux 25 000 personnes qui tentaient de les canaliser avec de la nourriture ou de les faire dévier avec par exemple des camions en travers de la route. Et donc ce troupeau est en train de rentrer au bercail, dans sa réserve naturelle. Il n'était plus il y a quelques semaines qu'à 200 km après avoir parcouru quand même pas loin d'un millier de kilomètres dans cette épopée.
Quand on reverrai-je pays merveilleux.
Jean-Claude Duss, ça fait toujours plaisir. Et puis ça marche surtout pour vous parler de télésiège.
Ah oui, je ne comprenais pas bien avec les éléphants. Oui, d'accord.
On parle de télésiège et d'une initiative toute bête, mais visiblement efficace, prise par le Parc National de la Vanoise dans la station de Val Thorens. Mettre des autocollants fluo sur les 85 télésièges pour éviter que les oiseaux de montagne, à commencer par le tétralyre ou le gypaète, ne les percutent. Ça arrive assez souvent en fait en fin de journée ou la nuit en particulier. Et après test au mois de janvier dernier, ben sachez que ça marche pas mal.
Ah oui ?
Ouais, c'est ce que disent en tout cas les responsables à nos confrères de France Bleu, pays de Savoie. Une bonne nouvelle aussi dans la Drôme, des lémuriens volés aux eaux d'Upi dans la nuit du 22 au 23 août dernier ont été retrouvés la semaine dernière et rendus au gérant Alexandre Liozu.
Très très bonne nouvelle, bien sûr on gardait espoir, le coup de fil dans la nuit de dimanche dernier m'a vraiment vraiment soulagé.
Et les voici de retour dans leur quartier sous l'œil bienveillant de Christelle Montulet, responsable des animaux.
Ils vont plutôt bien, ils étaient stressés à leur arrivée, certainement un peu déshydratés aussi, mais ils mangent bien, ils ont vraiment repris très rapidement leur marque.
Lémuriens retrouvés dans le fourgon d'un couple d'Ardéchois qui pourraient être impliqués dans un trafic.
Dit lémuriens, ça s'attrape pas comme ça, faut être très très déterminé, c'est des gens qui apparemment savaient quand même un peu ce qu'ils faisaient, ils devaient avoir prévu quand même pas mal de choses. Forcément les braconniers, ils vont plus forcément les chercher dans la nature pour les trouver, ils viennent dans les eaux, donc on remonte tous notre niveau de sécurité. autorités pour justement prévenir ce phénomène.
Oui, et il y a un petit peu de boucan derrière. Hein. Là, c'est une grue et quelques perroquets. Alors, il manque quand même à l'appel deux lémuriens, des bébés nés au printemps dernier, et un couple de tamarins. Donc, si vous voulez aider à les retrouver, parce que c'est aussi ça qui marche, eh bien, guettez même pendant plusieurs mois, hein, les mois qui viennent, les ventes en ligne hein, ou les selfies avec des lémuriens, parce que c'est complètement illégal. Et donc, vous les signalez. Le zoo ne perd pas espoir de les retrouver un jour. Enfin, ouvrez grand les oreilles. Alors, c'est pas une débroussailleuse. Ce sont des baleines à bosse de retour dans les eaux chaudes et tropicales de la côte pacifique de la Colombie, où elles sont nées, image relayée par l'AFP, et de retour pour s'accoupler. 2000 baleines venues de l'Antarctique s'y retrouvent chaque année jusqu'au mois d'octobre. Je rappelle le calibre hein, quand même, jusqu'à 16 mètres de long et 36 tonnes. Ouais. Mais un chant toujours aussi délicat. Et ça fait toujours du bien le chant des baleines.
Et c'est Camille Passauvert avec les bonnes nouvelles du vendredi dans le club de la Terre au Carré. On parle des femmes agricultrices en bio dans un instant et Aldebert pour nous faire écouter sa nouvelle chanson consacrée à la planète.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance. Là où le vent m'emmène, je cherche le cœur de mes mamans pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain.
Le sang de mon prochain, c'était la femme.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Tu veux devenir agricultrice ?
Ben oui. J'ai réussi mes entretiens et ils m'ont acceptée dans un centre de formation agricole.
Mais enfin, agricultrice ? Qui a pu te fourrer une idée pareille dans le crâne ?
Personne, maman, j'y pense depuis toujours.
Tu te vois élever des cochons, conduire un tracteur ? Tu vas avoir 30 ans, ma pauvre fille. Alors tes rêves de fermière, tu les ranges et tu reviens sur terre.
Bah justement, maman, je vais avoir 30 ans, il serait temps que je fasse enfin ce que j'ai envie de faire.
Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion avec Mathilde Seigné. Est-ce que ça vous inspire, Valérie Lazenec, cette petite scénette pour ouvrir le sujet des femmes agricultrices en bio, comme vous ?
Oui, tout à fait, ça me fait sourire, c'est clair. Je crois que c'est un peu la réaction qu'ont eu mes proches quand ils ont appris que j'allais devenir paysanne.
C'est vrai ?
Surtout en ville. Oui, tout à fait.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas votre vocation à la base ? Vous faisiez autre chose ?
Oui, pas vraiment. En fait, moi, je suis une issue vraiment du monde de la ville. J'habite Brest et du coup, j'ai que des origines urbaines. J'étais une vraie citadine et par alliance, par amour, je suis devenue paysanne et je le regrette pas parce que ça permet justement de revenir en lien direct avec la nature et c'est ce qu'elle dit bien, vers les pieds sur terre. Bah oui, on les a vraiment quand on est paysanne ou paysan.
Ouais. Alors, vous faites partie des commissions nationales et régionales femmes et bio de la Fédération nationale de l'agriculture bio, fédération qui sera présente, ça c'est l'actu, au congrès mondial de la bio, entre le 6 et le 10 septembre, donc la semaine prochaine au couvent des Jacobins dans le centre historique de Rennes. Congrès qui se déroule tous les 3 ans, parrainé par Nicolas Hulot. Et jeudi 9 septembre, il y aura justement au congrès une intervention sur le thème des femmes et du bio. Il y a une commission femmes et bio qui a été créée. Il y a toute une enquête qui a été menée également en 2018, à laquelle vous avez participé. Pour quelles raisons exactement tout ça a été mis en place?
Bah, tout simplement parce qu'à l'époque, la FNAB, c'était Stéphanie qui était notre présidente. Et c'est vrai que ben, les paysannes en étaient assez fiers d'avoir une femme à la présidence. Et du coup, on a souhaité mettre en place une étude parce qu'on constatait qu'en fait, les paysannes étaient quand même très peu présentes dans nos instances. Et cette étude a montré ben, en fait, un peu l'effet de la société. Hein. Ça reproduit un petit peu quand même la place de la femme aujourd'hui un peu partout, avec une répartition plutôt genrée du travail à la ferme, et que l'on hérite plutôt ben, des corvées ménagères. Et du coup, cela nous donne un peu pas trop de temps, en fait, ou reste le principal frein en fait, à l'engagement. Donc on s'est dit qu'il fallait faire bouger un peu ça. On a cette capacité dans notre réseau de faire bouger les choses et on se disait que c'était quand même bien dommage que la femme soit moins présente et moins engagée.
Valérie Lazenec, vous n'avez pas du tout, on vous posait la question tout à l'heure, mais vous n'avez pas la proportion de femmes agricultrices ou paysannes, comme vous dites, en France par rapport aux hommes. Hein. C'est quoi? C'est 2, 3%, 10%?
Non, c'est plus que ça quand même. Ah. Il y a à peu près un quart des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Donc ça progresse énormément parce qu'on voit aussi qu'il y a une volonté en fait de beaucoup de gens qui font une reconversion et qui souhaitent revenir proche de l'environnement et de la nature, et plutôt des femmes. Donc on voit aussi en fait qu'il y a une vraie progression aujourd'hui des installations des femmes. C'est une bonne chose. Après, jusqu'à les pouvoir s'engager et prendre des responsabilités, ça semble moins évident que les hommes. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail pour pouvoir leur donner envie et surtout leur faire comprendre que la place des femmes est essentielle dans ce monde plutôt masculin historiquement.
Ouais. Le patriarcat est encore très marqué hein, en agriculture.
Vous cultivez quoi et où, Valérie Lazenec?
Alors, moi, j'ai une ferme laitière bio sur Brest avec mon conjoint. On a un atelier de transformation. On fabrique des yaourts pour les cantines, justement, pour pouvoir approvisionner des petits élèves en bons produits bio locaux.
Ouais. Est-ce que vous heurtez beaucoup au problème du remplacement dans votre ferme lorsque, justement, vous avez envie de mener d'autres actions sur le terrain pour défendre le métier d'agricultrice bio?
Ben c'est un une grosse difficulté, donc c'est là-dessus aussi que la FNAB travaille actuellement. On travaille avec les services de remplacement pour essayer de voir comment justement on peut former des gens qui seraient un peu plus réactifs et surtout qui seraient adaptés à intervenir sur différentes fermes, notamment les fermes bio où il y a plus de diversification, des plus petites exploitations avec des activités plutôt atypiques et qui font que parfois c'est extrêmement compliqué de trouver en fait des gens pour venir au pied levé.
On a juste...
Et surtout aussi, l'agriculture subit un peu... En fait, historiquement, c'était vraiment des passations familiales avec les enfants qui prenaient la suite. Et on constate que l'agriculture souffre actuellement et que bah, les enfants n'ont plus envie, et les enfants d'agriculteurs hein, n'ont plus envie de devenir agriculteurs et volent leurs propres ailes pour faire autre chose. Et du coup, on manque de main-d'œuvre, de gens qualifiés et opérationnels pour pouvoir faire notamment les remplacements.
On a justement un message par mail d'une personne qui est anonyme mais qui nous écrit qu'elle est ouvrière agricole en viticulture dans l'Hérault, dans le sud de la France. Donc, on manque de personnes, nous dit-elle, pour travailler la terre et éviter les produits nocifs. Il semble que certains et certaines essayent mais abdiquent rapidement parce que c'est trop dur physiquement si on veut réellement aller vers du bio sans produits chimiques. Vous, Valérie Lazenec, justement, vous parliez des enfants. Qu'est-ce que vous diriez à une petite fille ou à un petit garçon aujourd'hui pour lui donner envie d'être paysan ou paysanne?
Ouais, je lui dirais que au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, de retrouver le lien direct avec l'environnement, de vivre les saisons, vivre les natures. Je crois que c'est tellement riche. Certes, c'est un métier difficile, hein, physiquement, etc. Mais c'est tellement une vraie passion et de pouvoir d'être en lien direct avec le végétal et l'animal. Après tout, on est aussi de vrais chefs d'exploitation, on a des entreprises, hein. On gère du matériel, on gère des animaux quand on en a, on a aussi du personnel pour ceux qui en ont. Voilà, c'est un magnifique métier et on a besoin de nous pour pouvoir nourrir et au plus proche. L'auditeur disait tout à l'heure qu'il faut que ça bouge. Je pense qu'il doit bouger, c'est que les citoyens et certains en sont conscients, c'est qu'il faut rapprocher le consommateur des producteurs et ça pourra se faire qu'en local et qu'en bio local parce que pour préserver la nature et la biodiversité, on est dans un tournant actuel et on n'aura pas le choix, il faut y passer. C'est pas difficile de passer bio, c'est se libérer surtout des lobbies, faut se le dire, et c'est aussi ça l'avenir et c'est ce qui sauvera la planète.
En tout cas, vous en parlez extrêmement bien, Valérie Lazenec, et on consacrera une émission entière au sujet parce qu'il est vraiment intéressant, concernant et passionnant. Si certaines auditrices ou auditeurs ont envie de réagir à vos propos, vous pouvez d'ailleurs nous laisser des messages sur le répondeur de la Terre au Carré au 01 56 40 45 45. On en reparlera bien sûr dans l'émission. Donc il y aura un sujet là-dessus au Congrès mondial de la bio à Rennes la semaine prochaine, sur les thèmes des femmes et du bio. Mais il y aura beaucoup d'autres choses avec tous les spécialistes de l'agriculture biologique qui viennent du monde entier pour des temps communs d'échange, des réflexions sur le développement de la bio à travers le monde et ses enjeux. Donc si vous souhaitez avoir tout le programme pour ce congrès du bio à Rennes la semaine prochaine, dès lundi, vous allez sur le site du département de l'Ille-et-Vilaine. Il est en lien évidemment sur la Terre au Carré. Merci beaucoup Valérie Lazenec, vous étiez depuis chez vous, à Brest.
Oui. Oui.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Allez, changement de cap, on part à l'Est. Aldebert nous attend à France Bleu Besançon. Ça va Aldebert ?
Très bien, je vous écoute attentivement.
Bon, Besançon, c'est votre ville d'enfance, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, je suis né à Paris et j'ai débarqué ici à l'âge de 3 ans. Donc, j'ai vraiment toute mon enfance ici.
Ouais, allez, dans un instant, on va parler de ce titre qui a retenu évidemment notre attention. Extrait de votre dernier album Enfantillage 4. Titre Assis soit-il avec Peter Garrett. On écoute le titre tout de suite et on en parle juste après. Aldebert, vous êtes l'invité de La Terre au Carré.
Dans la vie d'avant, des abeilles sur nos desserts et des journées sans écran. Pas de plastique à la mer, de la glace, des ours blancs, de la neige sur nos hivers. Wherever we look, the forest retreats, the coral is bleached by an endless sun. The ocean's so high, the jungles are quiet. Is it too late to say that nature's undone? Que s'est-il passé? Allez, rangeons nos mouchoirs. Écoutons, la forêt poussée, mettons que les arbres choir. Tellement de cervelle, puisque l'on scie la branche sur laquelle on est assis. Lentement le temps passait, sans futile connexion, parfois même on s'ennuyait.
I hear the birds singing out, come protect me if you care, if you dare. If we let our hearts beat louder, and if our voices get so much stronger.
We draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you.
We're not sitting down, puisque l'on scie la branche sur laquelle on est assis.
Oh là là, efficacité redoutable pour ce titre, Ainsi soit-il, Aldebert, avec Peter Garrett et Greta Thunberg, s'il vous plaît. Donc là, vous avez le casting d'enfer quand même, hein.
Ben oui, c'est incroyable. C'est un casting évidemment auquel je m'attendais pas du tout. Moi, j'ai proposé cette chanson à Peter Garrett. C'était vraiment une bouteille à la mer. J'ai eu la chance de le rencontrer. Ça a duré une minute notre rencontre au sortir de scène. Ouais. Et j'y croyais pas une seconde. Je lui ai donné un album d'enfantillage. Je dis voilà, je prépare une chanson qui est en cours d'écriture sur l'écologie, qui est un petit peu rock'n'roll et un petit peu vénère dans le ton. Et je vous entendrai bien là-dessus. Et j'y croyais pas une seconde. Il est reparti avec le disque. Je me disais tiens, qu'il allait peut-être caler un meuble avec ce CD, mais il m'a rappelé, et puis il connaît Greta Thunberg. Ouais. Il a été lui-même ministre de l'Environnement, comme chacun sait.
Oui, il n'a pas laissé un grand souvenir coup, dans ce domaine. Hein.
Non, ça a été assez bref, mais c'est quand même pas rien. Et du coup, il m'a rappelé, et on a pu enregistrer la chanson à distance, ce qui est incroyable, et je me retrouve à faire des chœurs avec Peter Garrett, le groupe que j'avais étudié en 5e.
Oui, alors pour ceux qui ne se souviennent pas de lui, parce que bon, on n'a pas tous forcément l'image de ce grand chauve en tête australien, Peter Garrett, quand même, c'est ça. C'était juste histoire de se faire plaisir, Aldebert, hein. Mais il fallait quand même le rappeler.
Mais
hein.
Ça fait super plaisir.
C'est la chanson au monde sur laquelle je chante le plus en yaourt. Je n'ai jamais compris les paroles. Aldebert, par rapport aux paroles, justement, Ainsi soit-il, c'est qui, ils? C'est les décideurs, c'est les climato-sceptiques, c'est les dirigeants?
Oui, c'est tout ça, c'est tout. C'est un peu la figure des adultes qui freinent les choses, qui freinent les avancées et qui freinent le réveil des mentalités. Donc c'est un peu ça. Puis c'est aussi un petit clin d'œil à la locution religieuse Ainsi soit-il, hein, qui exprime le souhait de ce qu'on voudrait, de ce qu'on vient d'énoncer. Donc évidemment c'est pas une prière, mais c'est de se dire j'espère qu'on arrivera à ne pas faire tomber cette branche sur laquelle on est assis.
Ouais, il y a quand même une certaine nostalgie hein, dans ce titre, celle d'un temps passé, de la vie d'avant, où il y avait des abeilles, des ours blancs, de la glace. C'est affreux finalement quand on y pense. Hein.
Ouais.
On en a encore.
C'est un peu dur. C'est vrai qu'il y a... Puis cette possibilité qu'on avait de s'ennuyer, on a l'impression que ça s'efface aussi un petit peu. Ça, on le voit chez nos enfants maintenant.
Ouais. Est-ce que les petits sont de vrais militants de la planète aujourd'hui? Et vous qui chantiez déjà l'écologie finalement il y a plusieurs années avec Monsieur Tout le Monde, est-ce que là aussi vous avez vu les enfants changer sur le sujet?
Alors, j'ai l'impression, c'est peut-être un peu utopique, mais moi je les vois vraiment comme des acteurs d'un certain ralentissement. Je le vois chez mes enfants parce que je les vois très sensibilisés sur la pollution, sur tout ça. Donc je pense qu'ils travaillent beaucoup ça aussi à l'école, et je pense qu'ils sentent, ils sentent ce qui se passe. En fait, ils sentent cette urgence.
Allez. Tous, parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment, Aldebert, dans l'âge où quand on est enfant, on est sensibilisé à ça, quand on est adolescent, certains restent sensibilisés, mais beaucoup d'autres, malheureusement, adolescents, jeunes étudiants, oublient un petit peu, quoi, avec d'autres préoccupations, on va dire.
Peut-être. Alors, moi, j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'aujourd'hui, si on voit, par exemple, je pense à une vidéo que j'ai vue récemment sur YouTube qui était incroyable. On voit un type en voiture qui s'arrête et qui vide son cendrier, le cendrier de sa voiture, par terre, comme ça, sur la route. Ouais. C'est quelque chose qui, dans les années 80, pouvait passer, je pense. Et aujourd'hui, quelle que soit la génération, quand on voit ça, on est complètement horrifié, c'est pas possible.
On a justement un mail de Patrice qui nous écrit: c'est lors du passage à l'adolescence et à l'âge adulte que les préoccupations environnementales sont trop vite oubliées, phagocytées par toutes les sollicitations consuméristes organisées par des lobbies économiques hyper puissants. C'est difficile de se battre contre tout ça aussi, j'imagine, même en chanson et avec bonne humeur.
Bien sûr. Et puis, alors, moi, j'ai la chance d'être peut-être plus sensibilisé parce qu'on habite à la campagne sur une petite montagne et on a la forêt juste à côté. Donc, les enfants, ils sont connectés tout le temps à la nature. C'est génial. Une famille parisienne qui a vu sur l'Apple Store, effectivement, c'est peut-être plus compliqué.
Oui. Je parlais de Monsieur Tout le Monde. Ça, c'était 2008, Aldebert, ce titre, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'était le premier enfantillage. Oui.
Ouais, on va en écouter un petit extrait pour voir justement si la façon de chanter l'écologie a changé chez vous.
Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures, à l'orée des forêts, des montagnes d'ordures, des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures? Comment font les oiseaux, coquillages et poissons, quand ils ont sur la peau des kilos de goudron, si la mer n'est plus bleue mais marron? Monsieur Tout le Monde, qu'avons-nous?
Monsieur Tout-le-Monde en 2008, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vous en cette décennie quasiment, même plus.
Bah oui, puis pas en bien à ce niveau-là, quoi. Donc je pense que ça s'entend aussi dans le ton de cette chanson, et Peter Garrett il participe aussi évidemment, parce qu'il y a un côté peut-être plus revendicatif, un côté plus urgent encore, plus en colère.
Mmh. Ça veut dire quoi de vivre dans les bois, ou en tout cas au sommet d'une montagne comme vous, Aldebert? C'est quoi votre environnement? Parce que ça nous fait rêver.
Alors moi j'ai une petite maison comme ça qui domine le premier plateau du Houdou, donc j'ai un horizon, ce qui est déjà incroyable. Ouais. J'ai beaucoup de chance et on va très souvent avec les enfants en forêt, donc c'est chouette. On essaie de bien se comporter par rapport à la pollution, parce que dans la forêt on trouve, comme j'ai dit dans la chanson de cet enfantillage 1, on trouve des chaussures, on trouve des bouteilles et tout ça, donc on va les ramasser et puis on essaie de faire des efforts. Moi je leur fais des blagues parce qu'ils me demandent est-ce qu'on peut mettre ça dans le compost et tout. Je dis oui, vas-y, tu peux mettre des piles dans le compost et tu peux mettre des pneus aussi. Alors on fait des blagues et tout, mais je crois qu'il faut pas dramatiser, il faut pas les culpabiliser. Je pense qu'on a plutôt à s'excuser, nous les adultes, c'est ce que je dis dans la chanson.
Allez.
Mais entretenir ce truc-là, ouais.
À la tour TF1, on a un bel horizon aussi, Christophe Sommet.
Ouais.
Ceux qui bossent avec Joya TV.
On a aussi des ruches avec des abeilles.
C'est vrai.
Sur le toit, bien sûr.
Ouais. Bah, décidément.
Ouais, ouais. On va s'échanger des ruches.
On va s'échanger le pot de miel, exactement.
Aldebert, est-ce que pendant vos concerts, où évidemment ça fait toujours un carton plein d'enfants avec leurs parents, est-ce que vous en profitez aussi sur scène, au-delà des paroles de certaines chansons, pour passer des messages, en particulier pour la planète? Ou est-ce que vous allez le faire, en tout cas dans la tournée qui vient?
Oui, ça peut arriver. C'est vrai que l'entre-chanson, c'est un petit moment comme ça important pendant lequel on peut passer des messages. Je pense à une chanson que j'avais partagée avec Grand Corps Malade sur la condition animale, qui s'appelle Jolie Zoo, et qui est une espèce de traumatisme que moi j'ai vécu gamin en allant voir ces animaux dans des cages trop petites, et c'est un cauchemar total encore maintenant. Mmh. Et on peut glisser aussi c'est notre vision à nous, puisqu'on a cette tribune sur scène.
Bah oui.
et la partager avec les enfants, bien sûr.
Ouais. Et on vous avait diffusé, je crois, l'année dernière, les Corona Minus pour expliquer les gestes barrières aux enfants. C'était très chouette, ça aussi, je me souviens, je crois qu'on l'a d'ailleurs.
Lavez-vous les deux mains une demi-minute en récré. Prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. D'un mètre dit la science et puis tout ira bien.
Vous, soyez vous êtes sur tous les fronts, Aldebert, finalement.
C'est autre chose que McFly et Carlito.
Ouais, ça c'était une demande un peu des fans, et puis après une opération avec France Télé dont les droits ont été reversés à Emmaüs. Ouais. Connect. C'était une chouette aventure, le Corona Minus. Ouais. C'est pas évident d'écrire sur ce truc qui nous pèse depuis tellement longtemps, depuis trop longtemps maintenant, mais il fallait pouvoir s'amuser, il fallait trouver un décalage un peu avec ça.
Allez, Aldebert, Enfantillage 4, c'est ce nouvel album qui cartonne avec l'ami Guillaume Meurice, qui figure d'ailleurs sur un titre, Mythomane, et puis en ce moment on entend aussi ce titre Double Papa avec Calogero, et donc ce titre avec Peter Garrett pour parler de la planète. Merci infiniment, Aldebert. Il y a une grande tournée qui commence le 18 septembre à Bordeaux. Il faut aller sur votre site, il y a toutes les dates et vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Merci beaucoup, Camille. Voyage à Marseille.
Oui, et donc
on se retrouve demain.
Oui, on se retrouve le week-end à Marseille, et lundi à l'antenne.
Pour le direct de la Terre au Carré.